Il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Dans un instant, nos débats d'Oppenheim. Et tout de suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Damien Abad ne démissionne pas. Le nouveau ministre des Solidarités, accusé de viol par deux femmes, dément formellement, vous l'entendrez.
Et c'est le premier avis de tempête pour le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Un témoignage très fort au procès du crash de la Yemenia Airways, celui de la seule survivante, 12 ans en 2009, 25 ans aujourd'hui. Dans ce journal, oui à Paris, non au Real, les explications de Kylian Mbappé sur son choix de rester au PSG pour le sport et pas pour l'argent. Et puis à Roland-Garros, la sensation du jour, c'est la jeune française Diane Paris. Elle a sorti la tenante du titre et numéro 2 mondial, la tchèque Krejčíková.
La tendance météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Bonsoir.
Bonsoir. Des températures qui continuent de baisser, se situant un peu en dessous des normales de saison. Un ciel calme, plus ou moins nuageux, qui s'installe partout.
Europe 1. Damien Abad dans la tourmente, le nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, est accusé de viol par deux femmes. Il s'est défendu publiquement cet après-midi.
Oui, prise de parole depuis la mairie de Saint-Jean-le-Vieux dans l'Ain, dont il est élu. Damien Abad se dit innocent et il reste au gouvernement.
Je conteste les accusations à mon encontre avec la plus grande des fermetés. Toutes les relations sexuelles que j'ai pu avoir dans ma vie ont toujours été mutuellement consenties. Ces accusations m'infligent, comme à mon entourage, une blessure profonde. J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'étais contraint, malheureusement, de le faire aujourd'hui pour me défendre et même de dévoiler mon intimité en détail en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Ce sont ici ma dignité et mon intégrité qui s'en trouve atteinte. Je le répète avec fermeté, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Vous comprendrez qu'aborder ces sujets publiquement est extrêmement douloureux pour moi. Désormais, je me consacre à ma mission de ministre, un ministre qui souhaite être sur le terrain, au plus près de la vie quotidienne des Français, garder les pieds sur terre, et je suis aussi pleinement engagé dans ma campagne législative comme candidat dans la 5e circonscription de l'Ain. Un homme innocent doit-il démissionner? Je ne crois pas.
Damien Abad au micro Europe 1 de Jean-Luc Bougeon. On l'a entendu, il ne quitte pas le gouvernement et s'en remet au choix des électeurs aux législatives. En tout cas, Jacques Serret, cette affaire empoisonne sérieusement les débuts du nouveau gouvernement.
Oui, de l'aveu d'un poids lourd de la Macronie, c'est une polémique dont on se sera bien passé. Cela alors que le tout premier conseil des ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne se tenait ce matin à l'Élysée. Les accusations contre le ministre des Solidarités éclipsant en partie ce rendez-vous censé lancer véritablement le second quinquennat d'Emmanuel Macron. À l'issue et pour son premier compte-rendu, la nouvelle porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, n'a eu d'autre choix que d'afficher une certaine distance avec son nouveau collègue.
La ligne du président de la République et les propos de la première ministre Elisabeth Borne hier ont été très clairs. Tolérance zéro pour les délinquants sexuels. Respect, écoute totale pour toutes les victimes présumées. Comme souvent dans ces affaires, l'enjeu, c'est ici l'établissement de la vérité. Et l'établissement de la vérité, c'est à la justice de le faire. Pour ce qui est des membres du gouvernement, voire du président de la République, avait-il connaissance des faits qui pourraient être reprochés à Damien Abad? À ma connaissance, aucun membre du gouvernement n'avait connaissance de ces faits.
Damien Abad, qui était vu comme la prise de guerre d'Emmanuel Macron du côté des Républicains, devient un boulet pour l'exécutif à un moment charnière, à 2 semaines des élections législatives.
Jacques Serret, il faut aller vite, donc nous allons aller vite, a dit Olivia Grégoire. 3 priorités, éducation, santé et écologie, mais aussi une urgence, le pouvoir d'achat. Un premier projet de loi sera présenté avant les législatives. Dès cet après-midi, place au premier déplacement, Elisabeth Borne au Muséum d'Histoire Naturelle pour parler protection de la biodiversité. Pavel Ndiaye, nouveau ministre de l'Éducation, s'est lui rendu au lycée de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine pour prôner le refus de la barbarie et de la haine.
Baïa Bakari revient de très très loin. Elle est la seule rescapée, Hélène, de l'accident de la Yemena Airways en 2009.
152 personnes avaient trouvé la mort au large des Comores. Elle témoignait aujourd'hui au procès de la compagnie devant le tribunal correctionnel de Paris. C'était une fillette de 12 ans à l'époque. Elle a raconté ses souvenirs du crash, mais aussi l'après, 10 heures accrochées à un débris d'avion.
On était en phase d'atterrissage quand l'accident a eu lieu. L'avion a commencé à descendre. Puis j'ai senti des turbulences, mais personne ne semblait réagir, donc je ne suis pas plus inquiétée que ça. Je sens comme une décharge électrique sur mon corps et je me sens comme soulevée avec mon siège toujours attaché à ma ceinture. Et j'ai un trou noir, je me réveille dans l'eau. Je vois 3 débris, donc je décide d'attraper le plus gros. C'était écrit, il y avait des personnes, on va dire, sur le papier qui avaient beaucoup plus de chances de survivre que moi. C'est une petite fille de 12 ans qui a survécu. Je voulais pas que ce soit un traumatisme. J'ai toujours refusé que cet accident définisse ma vie. Que je voulais reprendre l'avion, je voulais voyager, découvrir le monde.
La force de Baya Bakary au micro européen de Gladys Laffitte. Elle déplore d'ailleurs n'avoir jamais reçu la moindre excuse de Yemena Airways.
Et puis au procès des attentats du 13 novembre, après la parole des victimes, place aux plaidoiries des parties civiles.
Oui, une centaine d'avocats vont se succéder à la barre. Certains se sont coordonnés et plaideront par thème. Marion Gauthier, vous êtes au Palais de justice de Paris. C'est une démarche inédite.
Oui, car il y a plus d'avocats que de temps pour tous les écouter. Certains s'exprimeront donc pour la communauté des parties civiles, explique Maître Giffard. Elle s'est avancée lentement à la barre. Elle parle d'une voix douce et solennelle. Ça fait 6 ans qu'on compose pour que nos clients ne soient pas doublement éprouvés. Ils ont été au mauvais endroit, au mauvais moment, et trop nombreux, dit-elle. Ils doivent pourtant pouvoir être chacun une victime à part entière. La salle est remplie, attentive, les accusés immobiles. Frédéric Giffard annonce qu'au début de chaque audience, quelques minutes seront consacrées aux victimes décédées. Ses confrères se succèdent alors. Les robes noires brossent les portraits émus de disparus. Ils évoquent Renaud, l'homme éperdument aimé, le sourire rayonnant de Thibault. Ils s'arrêtent sur les billets de concert qui attendaient Mathieu dans sa chambre. Mais voilà, Mathieu n'ira plus nulle part, conclut son avocat. Il a été tué au Bataclan. Silence religieux sur les bancs.
Marion Gauthier à la Cour d'assises spéciale de Paris. Les avocats de la défense plaideront à partir du 13 juin. Verdict en Ukraine dans le premier procès pour crime de guerre. La prison à vie pour un soldat russe de 21 ans. Son avocat fait appel. Les enquêteurs ukrainiens disent avoir identifié plus de 8000 cas présumés de crimes de guerre. Sur le plan économique, la chaîne américaine Starbucks ferme définitivement ses 130 cafés en Russie, comme McDonald's avant elle.
On fait une petite pause, Hélène. Et puis on va parler de Kylian Mbappé qui reste au PSG, pas pour l'argent, mais surtout pour des raisons sportives. A tout de suite.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans le journal de 19h sur Europe 1 avec Hélène Zelani. Hélène, c'est la fin d'un interminable feuilleton. Finalement, Kylian Mbappé reste bien au PSG.
Et il s'en est expliqué tout à l'heure au Parc des Princes, conférence de presse, puis dialogue direct avec la star, Cyril de la Morinerie. Alors, pourquoi Paris plutôt que le Real ?
Alors, dans un petit salon, pour vous raconter un peu le contexte, nous étions dans un petit salon du Parc des Princes. Kylian Mbappé, costume noir, souriant et tout à son aise, l'a très bien expliqué au micro d'Europe 1. Il y avait plusieurs paramètres et pas uniquement l'aspect financier. Ce qui a surtout compté, eh bien c'est le projet sportif du PSG, mais aussi le fait d'être français.
Je connais mon importance, on me l'a rappelé aussi, mon importance dans le pays. Et quand tu es une figure nationale, tu as des droits, tu as des devoirs aussi. Donc quitter la France gratuitement comme ça, je pense que ce n'était pas le moment adéquat pour partir.
Kylian Mbappé a même révélé au micro d'Europe 1 qu'il avait consulté le président de la République, Emmanuel Macron, avant de prendre sa décision.
Non, il m'a donné des bons conseils. Bien sûr qu'il voulait beaucoup que je reste, comme beaucoup de personnes. Vous savez, dans ce genre de négociation, vous échangez avec pas mal de personnes avec qui vous ne penseriez jamais échanger avant que ça se passe. Mais je suis content parce que malgré tout ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire, ça reste quand même ma décision à moi.
Et puis le Français préférait disputer les Jeux Olympiques de 2024, de Paris 2024, avec le maillot du PSG, plutôt qu'avec celui du Real Madrid. En attendant, Kylian Mbappé ne sera pas capitaine, du moins pas tout de suite, ni directeur sportif. Je cite, « Je reste joueur de foot et je n'irai pas au-delà de cette fonction. Par conséquent, la star de 23 ans ne choisira pas le nouvel entraîneur du PSG. » Cela dit, quand Europe 1 lui a posé la question sur une éventuelle arrivée de Zidane à Paris, Kylian Mbappé a esquissé un sourire.
Zidane, c'est Zidane. Hein. Je ne sais pas ce qu'il va faire, j'ai pas parlé avec lui, mais Zidane, ça reste Zidane. Encore plus qu'on parle de ce côté français, moi pour un français. Et je crois qu'il veut aller avec la sélection, donc je ne sais pas si lui il va vouloir venir au PSG ou je ne sais pas, je ne connais pas les plans.
Et Kylian Mbappé compte jouer au PSG ces 3 prochaines années, remporter, il l'espère, la Ligue des Champions avant de découvrir ensuite un nouveau championnat.
Et Cyril, après ce volet explication, Mbappé a rejoint les centaines de supporters qui l'attendaient à l'extérieur du parc. Ambiance dingue pour Passage Éclair, Johan Tritz.
Oui, des chants, des fumigènes, un accueil royal pour Kylian Mbappé qui n'a donné que 4 petites minutes de plaisir. Pas plus, pas d'autographe, pas de selfie. Évidemment, cela a fait quelques déçus.
Il a pris aucune photo, il est juste passé.
C'était court, mais c'est pas grave.
Très court.
On aurait peut-être aimé qu'il s'arrête un peu plus longtemps.
En plus, les autres derrière, ils nous poussaient et tout.
On était collés, c'était impossible.
Difficile d'apercevoir la star cachée derrière un lourd dispositif de sécurité, mais ces quelques images ont suffi au bonheur de certains supporters.
On est vraiment impressionnés, franchement, ça fait quelque chose, ça fait vraiment chaud au cœur.
Première fois que je vois aussi près, ouais.
De le voir, ça a été incroyable, et puis franchement, non, c'était beau, c'était très beau.
Un événement immanquable, donc, pour quelques jeunes fans du PSG qui ont même bravé l'interdit pour voir leur joueur préféré.
J'ai cessé les cours carrément pour venir ici.
On a dit au prof, on se taille, on va regarder la présence du jeu, il a dit ok.
Bonne nouvelle, il n'y aura pas besoin de quitter l'école pour revoir Kylian Mbappé. Le prochain match du PSG aura lieu pendant les vacances d'été.
Ils sont plutôt sympas les profs, Johan Tritz au Parc des Princes.
Roland-Garros, l'événement tennis est sur Europe 1.
Roland-Garros, où une jeune joueuse française a impressionné aujourd'hui, Diane Paris, 19 ans.
Oui, elle s'est imposée face à la tenante du titre et numéro 2 mondial, la tchèque Barbora Krejčíková. Cédric Chasseur, vous êtes porte d'Auteuil.
Oui, et même si Krejčíková arrivait ici à Roland-Garros en manque de repères et qui n'avait plus joué depuis février, il ne faut pas minimiser ce succès de Diane Paris, 97e joueuse mondiale. La Française a fait preuve d'un bon mental après avoir perdu la première manche 6-1. Elle a trouvé le bon rythme pour renverser la situation et remporter les deux sets suivants 6-2, 6-3, ce qui vient mettre un peu de couleur dans une saison 2022 jusqu'ici assez terne. Autre Français à avoir battu un ancien tenant du titre, Corentin Moutet, 23 ans, 139e joueur mondial, qui sort le Suisse Stan Wawrinka, vainqueur ici en 2015 et qui est redescendu depuis à la 257e place mondiale. Moutet a fait chavirer le court Suzanne Lenglen en l'emportant en 4-7, 2-6, 6-3, 7-6, 6-3. De quoi s'offrir une affiche de gala au deuxième tour face à Rafael Nadal, tête de série numéro 5 seulement cette année et qui a battu facilement en 3 petits sets l'Australien Jordan Thompson, 6-2, 6-2, 6-2. Entrée tranquille aussi pour Iga Świątek, grande favorite du tableau féminin qui n'a laissé que deux jeux à l'Ukrainienne Lesia Tsurenko. Et puis Novak Djokovic s'est échauffé il y a quelques minutes sur le court central qui est vide. Il est attendu d'ailleurs ce soir sur ce court Philippe Châtrier. Le tenant du titre va inaugurer la nouvelle session de nuit du court. À 20h45, le Serbe affrontera le Japonais Yoshihito Nishioka.
Cédric Chasseur, qui parle très bien japonais en direct de Roland-Garros, et rendez-vous à 19h40 pour Service Pioline.
Voilà.
Avant la météo, un petit mot du déluge qui s'est abattu la nuit dernière sur Châteauroux. Des grêlons gros comme des boules de pétanque ont causé d'importants dégâts par brise brisée, toiture endommagée. Deux lycées sont fermés pour plusieurs jours. Une cellule de crise est ouverte avec un numéro d'urgence pour aider les habitants en difficulté.
Alors justement, on va voir la météo avec vous, Valérie Darmon. Valérie, demain, le temps va rester frais et variable.
Absolument. Variable à tendance bien couvert partout, excepté le long de la Manche où vous profitez de quelques belles éclaircies sur les Alpes-Maritimes. En revanche, partout ailleurs, il n'est plus question d'orage, mais d'un temps plus ou moins nuageux et pluvieux dans l'après-midi, notamment sur le bassin parisien, les Charentes, la vallée de la Garonne. Sur les Pyrénées, l'Occitanie, le tapis nuageux est encore plus épais toute la journée avec de la neige de nouveau à partir de 2000 mètres. Le temps qui est aussi assez chargé en région PACA, avec même quelques averses qui circulent l'après-midi sur les Bouches-du-Rhône sous forme d'ondées. Ces dernières qui vont prendre un caractère orageux sur le relief des Alpes du Sud. Et les températures qui continuent de baisser avec des maximales entre 15 à Dunkerque et 27 tout de même à Toulon. On est quand même sous les normales de saison.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Merci Hélène Zellani. On se retrouve dans un instant pour les débats de Punchline avec nos invités. On évoquera le premier conseil des ministres d'Elisabeth Borne ce matin et de l'affaire Damien Abad, le ministre qui se dit innocent des accusations de viol et d'agression sexuelle qui pèsent sur lui. Il n'envisage pas de démissionner. A tout de suite sur Europe 1.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.